Bonjour bien-aimés. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être présents dans sa présence. Oui, conduis-moi Seigneur. Nous sommes dans un week-end qui est un week-end, semble-t-il, particulier, n'est-ce pas? C'est le week-end de la Toussaint. C'est un week-end dans lequel nous pouvons, en tant qu'êtres humains, nous souvenir des personnes que nous avons vues partir. La Toussaint, selon la tradition ambiante, c'est la prière pour les morts. Prière, et ça dépend de quelle culture chrétienne on est, ou pas du tout. Pour certains qui ne sont pas chrétiens, c'est un moment de retourner dans les cimetières, devant la tombe de la personne disparue, pour renouveler les fleurs, pour nous souvenir de ce que la personne a été. Et peut-être des fois de renouveler des vœux d'engagement vis-à-vis de cette personne défunte. Pour d'autres, de d'autres traditions, c'est la prière des saints. C'est le moment où on se souvient, où on peut prier encore pour que l'âme de la personne, qui peut-être n'est pas encore au paradis, puisse continuer son chemin vers le paradis. C'est quoi finalement cette fête? En tout cas, pour moi, elle tombe aussi dans une période où je me souviens, avec mon épouse, du départ de notre père, mon beau-père Benoît. Il est parti un certain mois d'octobre. Et c'est vrai que le mois d'octobre est un mois particulier. On peut se souvenir que notre père nous a quittés il y a quelques années. Ce souvenir est des fois douloureux parce que c'est l'absence d'un père. Quelquefois joyeux parce qu'on se souvient de tout ce qu'il a été pour nous, tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il a fait pour nous. Quelquefois en pointillé parce qu'on aurait tellement voulu faire avant qu'il ne parte. C'est aussi le souvenir de la perte de la fille d'un ami, un collègue, dont la fille est partie il y a à peine un an, dans ses trentaines d'années. Elle a été fauchée par la vie. Et c'était un événement très difficile. J'étais encore avec lui ce week-end et voilà, et toute sa famille, ses filles, les autres se souvenaient que leur sœur était partie il y a quelque temps déjà. Et c'est une semaine avec beaucoup d'émotions parce que j'ai été finalement pendant ces deux semaines au contact de cette douleur. J'étais dans des obsèques il y a deux semaines d'une mamie que j'ai bien connue. 69 ans, elle est partie. Et on évoquait son nom avec tout ce qu'elle a été. J'étais vendredi aux obsèques de la femme d'un ami. Dans la quarantaine, elle est partie. Et j'étais assis dans ce cimetière, je me disais, 47 ans, elle a 3 enfants, un mari, elle est partie. Connaissait Dieu, connaissait le Seigneur. Et puis, au détour de Facebook, Caroline m'apprend qu'on a perdu une sœur en Christ qu'on connaissait. Elle est partie, elle aussi, dans la quarantaine. Et je me suis replongé dans cette page et c'est vrai, elle est partie. Mais je la connaissais bien, on la connaissait bien. Elle aussi, épouse, mère, active dans son milieu professionnel, professeur à l'université, elle est partie. Quel type de rapport nous avons à la mort, frères et sœurs? Nous devons être humbles devant la mort. Nous devons être humbles devant les douleurs, les émotions, et que finalement cet événement crée en nous. Et j'écrivais donc sur le groupe de l'Église, finalement, apprenons à nous aimer quand on est vivant, frères et sœurs. Quand un être aimé à un événement, on fait tout ce qu'on peut pour y être, n'est-ce pas? Mais on le fait pas avec la même exigence qu'on aurait fait que lorsqu'on apprend qu'il a perdu quelqu'un de cher ou qu'il est décédé. J'avoue Mon collègue et moi, on a fait 1600 kilomètres aller-retour ce vendredi pour être aux côtés de notre ami. 1600 kilomètres aller-retour. Je ne suis pas sûr s'il avait un événement autre que le décès de sa femme. Je ne suis pas sûr que nous aurions fait 1600 kilomètres. Je ne suis pas sûr. Mais on a fait 1600 kilomètres parce qu'elle est partie. Aimons-nous pendant que nous sommes vivants. Soyons là avec ce que nous aimons. La mort, vas-y, avec la diapo. Nous allons faire un petit parcours ce matin pour nous encourager, mais pour nous situer par rapport à ce que la mort est. Non, c'est pas celui-là. C'est le message du 30. Regarde, tu vas le voir peut-être. Message du 30. Voilà, ça va venir. Voilà. Donc j'ai intitulé ce message Toussaint, prière pour les morts contre l'espérance de la foi chrétienne. Contre parce que il faut mettre en face de cet événement notre espérance chrétienne. Vas-y, s'il te plaît. Il faut commencer par affirmer ce que la mort est selon la parole de Dieu. La mort est la conséquence du péché. La Bible dit qu'au commencement des choses, les choses n'en étaient pas ainsi. Vas-y, s'il te plaît. Selon le livre premier, Genèse, le premier livre de l'Écriture dans le chapitre 2, Dieu qui instaurait la vie humaine sur la terre a donné ce commandement ferme à Adam et aussi à Ève. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà comment la mort est entrée dans le monde, parce que malheureusement, notre ancêtre a désobéi à cette parole. Ève et Adam ont mangé ce fruit. Et voilà comment ce que Dieu avait mis comme interdiction est rentré dans le monde. La mort est la conséquence du péché. Et l'épître aux Romains le dira avec d'autres expressions. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, ce que le péché récompense, ce que le péché te donne après avoir travaillé avec toi, c'est la mort. Donc finalement, la mort n'est pas naturelle. La mort est la conséquence du mal. La mort est la conséquence du mal. Trois sortes de morts qu'il faut affirmer aussi. Il y a la mort corporelle. Les médecins donnent cette description physiologique. C'est l'arrêt des fonctions cérébrales, du battement cardiaque. C'est l'arrêt des fonctions vitales. La perte irréversible de ses fonctions vitales. Quand on a perdu tout ça, on est mort. Et un médecin vient attester notre départ. La mort est un destin universel. C'est la Bible qui le dit. Ésaïe, dans son chapitre 40, versets 6 à 7, dira « Tous les êtres de chair !» Dans une image poétique belle, mais quand même un peu difficile. Tous les êtres de chair sont de l'herbe et toute leur constance est comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur vient sur elle en rafale. Oui, le peuple, c'est de l'herbe. Le prophète dit que notre vie est là pour un temps, aussi belle soit-elle. Et il y a un temps où elle n'est plus là. Et tous les humains, s'il y a quelque chose que nous partageons tous en tant qu'êtres humains, c'est la mort. Aucune de nos conditions humaines, aucun de nos comptes en banque ne peut nous faire échapper de cette réalité. Nous sommes tous humains à ce niveau-là, car nous sommes tous des êtres mortels. C'est le terme de la vie terrestre. C'est être retranché des vivants, ne plus pouvoir entrer en communion avec ici-bas, ne plus pouvoir agir ou interférer avec le monde des vivants. Le prophète Samuel, dans 2 Samuel 12, 23, dira, mais maintenant, il est mort. Et c'est David qui parle devant la mort d'un de ses enfants. Mais maintenant, il est mort. Pourquoi jeûnerais-je? Est-ce que je puis encore le faire revenir? C'est moi qui m'en vais vers lui. Mais lui, il ne reviendra plus vers moi. Donc la mort est irréversible. Une fois qu'on est parti, on est parti. Le psaume 78, verset 39 dit, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Un souffle qui s'en va et ne revient pas. Souffle ici dans le sens d'une âme qui s'en va et qui ne revient pas. Ésaïe 38, verset 10 dira, moi j'ai dit, au meilleur temps de ma vie, je dois m'en aller. Je suis assigné aux portes du séjour des morts pour le reste de mes années. Mourir, c'est ne plus pouvoir interférer avec le monde des vivants. La mort est une séparation interne, une séparation de l'âme avec le corps. Dans la vie, il y a une union entre notre être. Certains disent qu'on a âme et corps, d'autres disent qu'on a âme, esprit et corps. Tant que nous sommes vivants, ces entités, elles sont une, et c'est elles qui nous font vivre. Et quand vient la mort, l'âme retourne à son créateur, et le corps retourne à ce qu'il était. Poussière, tu ne retourneras à la poussière. L'Ecclésiaste au chapitre 12, verset 7 dira, « Avant que la poussière ne retourne à la poussière, selon qu'elle était, et que le souffle ne retourne à Dieu qui l'avait donné. » Et Genèse chapitre 2 nous rappelle que c'est Dieu qui a modelé l'être humain. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de la vie et l'homme devint un être vivant. Nous avons la certitude, la connaissance que nous sommes d'abord créés en tant que corps et que Dieu a mis une âme dans ce corps. Et selon toujours ce chapitre 2 de livre de Genèse que j'ai lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais tu ne mangeras pas de l'âme, de la connaissance, de ce qui est bon ou mauvais. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort est la sanction du péché. On pense que la mort est naturelle. Oui, elle est physiologique parce que nous sommes des êtres physiologiques. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, donc nous faisons partie de la nature. Oui, en ce sens, elle est naturelle parce que nous faisons partie de la nature. Mais elle n'est pas naturelle dans le plan premier de Dieu. Parce que la mort, finalement, est une conséquence d'un acte de désobéissance. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. La mort est donc la sanction que l'homme s'est infligé lui-même parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. De cette mort à laquelle nous sommes tous assujettis, il y a une deuxième mort, la mort spirituelle. Celle-là, on en parle beaucoup moins, n'est-ce pas? Parce que de toutes les façons, nous sommes tous des vivants. Mais de quel vivant s'agit-il? La mort spirituelle, c'est le fait de vivre dans le péché. Et le fait de vivre dans le péché peut être appelé mort. Ça s'appelle une mort spirituelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas de relation avec Dieu. N'est-ce pas? Vivre, selon la parole de Dieu, c'est vivre en communion avec Dieu. S'il n'y a pas cette communion, on n'est pas vivant selon Dieu. Péché, c'est se couper de la source de vie. C'est donc être mort. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 5, mais je dirai juste un bout de ce verset. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Il parle à des vivants, mais il dit vous étiez morts. Pourtant, ils sont encore vivants. Morts parce qu'ils n'avaient pas de relation avec Dieu. La mort spirituelle. Jérémie, le chapitre 2, verset 13, Jérémie dira, oui, il est double le méfait commis par mon peuple. Il m'abandonne, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Le fait que le peuple ait abandonné Dieu, Dieu considère qu'ils se sont enterrés eux-mêmes. C'est vrai que l'homme, finalement, a une certaine autonomie morale. C'est-à-dire qu'il est un être responsable de ce qu'il est. Mais Dieu est celui qui maintient la vie. Finalement, qu'on soit chrétien ou pas, la vie dépend de Dieu. Actes chapitre 17, verset 28 dira, « Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit certains de vos poètes. Car c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tout nous vient de lui. » Le refus de Dieu dans notre vie entraîne une autonomie morale, c'est-à-dire qu'on se détache de Dieu, et cette autonomie, elle nous entraîne dans la mort spirituelle. Cette autonomie morale s'appelle la mort spirituelle. À chaque fois qu'un homme se dit « Moi, j'ai pas besoin de Dieu », il est mort spirituellement. À chaque fois qu'un homme n'est pas conscient qu'il doit avoir une relation avec Dieu, il est mort spirituellement. C'est une rupture de cette relation avec le Seigneur. Le pécheur est sans Dieu dans le monde, étranger à la vie de Dieu. Être étranger à la vie de Dieu, c'est mourir un peu quand même. La mort du Christ intervient justement dans ce processus. Notre avocat, Jésus-Christ, est là pour dire qu'il a payé pour nous. Il le dit à l'accusateur. Et l'accusateur ne peut plus nous accuser. Hébreux chapitre 2, verset 14 dit, « Ainsi donc, puisque les enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, partagera la même condition, afin de réduire l'impuissance par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. » C'est pour ça que dans le credo, on dit que pendant la mort de Jésus, il est descendu. Certains disent aux enfers. On n'est pas très sûr que c'est la bonne traduction. Mais il est descendu pour arracher à la mort son aiguillon. Parce que c'est lui qui est la vie, finalement. La mort, c'est le troisième aspect de la mort n'est pas la fin de l'existence. Certains disent, et c'est pour ça qu'il y a une forme de piège, finalement, dans le suicide. Certains pensent qu'en mettant fin à leur jour terrestre, ils mettent fin à leur existence. C'est faux, puisque après la mort corporelle, on a une existence, puisque l'âme, elle ne meurt pas. L'âme, en tout cas selon la Bible, ce qui est tragique, en tout cas si on n'a pas Dieu, c'est qu'elle est éternelle. L'âme est éternelle. Certaines religions qui ne sont pas des vraies religions le savent, au point où elles ont elles-mêmes aussi conçu leur façon de percevoir la mort. Certains disent, tu vas te réincarner plusieurs fois, puisque ton âme de toutes les façons est éternelle, donc elle est vouée à se réincarner perpétuellement. Moi, je suis quelquefois assez sidéré de cette réincarnation. Je juge personne, mais devant ce constat, je suis un être humain et puis on me dit que demain, en fait, je serai peut-être un chien dans ma réincarnation. Voilà. Et que la fois d'après, je ne sais pas ce que je serai. Bref. La mort n'est pas la fin de l'existence. La mort, c'est vrai, c'est cesser de vivre. Donc c'est cesser d'agir, c'est cesser d'interagir, mais ce n'est pas la fin de l'existence. C'est vrai qu'il y a une séparation entre l'âme et le corps, mais l'âme, elle est vivante. Et selon l'Ecclésiaste, le corps retourne à la poussière, mais l'âme retourne à Dieu. Et il y avait une brochure très célèbre, qui n'existe plus maintenant, on la refait de temps en temps. C'était une brochure qui était peut-être choc, et peut-être c'est pour ça qu'on l'a retirée, mais le titre c'est « Si tu meurs, où iras-tu ?» La vie, on dit que la vie c'est une existence unifiée, parce qu'on est tout notre être, âme, corps, esprit est une seule entité. À la mort, ces deux entités ou ces trois entités se séparent. Une qui va finalement pourrir. C'est vrai, aussi beau, aussi belle sommes-nous, ce corps est appelé à la corruption. C'est pour ça que les apôtres, que Jésus disait finalement, ce qu'il y a de beau dans l'être humain, c'est son âme. Travailler à l'esthétique de son corps, c'est normal. On en a besoin. On est des êtres. Dieu nous a créés avec cette esthétique. Il faut en prendre soin. Mais la partie de nous dont il faut encore prendre plus soin, c'est notre âme. Parce que c'est celle-là qui est éternelle. C'est celle-là qui ne sera pas corrompue, qui ne mourra pas, qui ne sera pas, qui ne pourrira pas. C'est notre âme. Mourir, ce n'est pas purement cesser d'exister. C'est rentrer dans une autre existence. Il y en a deux. Et la plus tragique, ça s'appelle la mort éternelle. C'est-à-dire, il y a la mort corporelle, il y a la mort spirituelle, mais il y a la mort éternelle. Et la mort éternelle, c'est cette mort qui finalement, selon la description que nous donnent les Écritures et dont nous a, dans laquelle Jésus-Christ nous a introduit, c'est ce qu'on appelle le châtiment éternel. Le châtiment éternel. C'est la récolte des semailles de la vie des hommes sans Dieu. La réalité du châtiment, c'est la perdition. Elle existe, puisque Jésus nous en parle, puisque la Bible nous en parle. En principe, elle existe. Quelle est la réalité de cette existence? Nous ne savons pas. Dieu nous la donne en images, mais des images qui font, qui créent une certaine émotion. Ce châtiment, ce jugement, c'est pas l'annihilation. Certaines conceptions disent qu'en fait, on est des atomes. Donc une fois qu'on est mort, on n'est plus rien. On est annihilé, on est exterminé, on n'existe plus nulle part. C'est pas vrai, puisque la parole de Dieu dit que l'âme, elle existe. Elle part. C'est pour ça que parfois notre doctrine de la création, il faut qu'elle soit entière. Dieu n'a pas créé que des êtres matériels. Il a créé aussi des êtres spirituels que nous ne voyons pas. Donc quand nous ne sommes plus en tant qu'être humain physique, corporel, nous sommes quelque part. Nous sommes des esprits. Selon les Écritures. Et cette mort éternel, ce châtiment éternel, Jésus l'a décrit dans Matthieu chapitre 8, verset 12. Il dit, c'est là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Apocalypse chapitre 14, verset 11 dit, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Sont tourmentés jour et nuit. C'est horrible cette description. C'est horrible cette description. C'est horrible cette description. Certaines religions sont encore plus macabres que la foi chrétienne. La foi chrétienne, elle est, on va dire, elle est décente sur le châtiment. Elle donne pas toute l'acuité et toute la dangerosité, toute la pénitence que l'âme sans Dieu va vivre. Parce que le propos n'est pas de faire peur aux gens. Le propos, c'est de mettre l'accent sur l'espérance. Sur ce que, justement, l'âme ne va pas vivre. Mais certaines religions sont allées loin. Dans certaines religions, si on vous décrit l'enfer, vous dites, oula! On décrit ça avec des termes horribles. Mais, il faut quand même se rappeler que c'est un châtiment qui va durer à perpétuité. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la perpétuité. J'ai du mal à l'imaginer puisque je suis un être limité. Dans ma petite tête, je n'ai pas encore l'idée de ce que c'est que l'éternité. Mais vous savez, souvent quand vous êtes dans des difficultés et que ça dure, vous avez l'impression que ça dure longtemps. Vous vous dites même, quand est-ce que ça va finir? Des fois, ça dure quelques jours, mais vous avez l'impression que ça fait trop longtemps que vous avez ça. Des fois, ça dure quelques années. Des fois, ça dure quelques mois, mais vous avez l'impression que c'est déjà beaucoup trop. Imaginez-vous l'éternité dans une difficulté qui n'a pas de fin. Dans l'évangile de Matthieu 25, verset 46, Jésus dit, les uns iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Donc, deux rendez-vous. Un rendez-vous pour le châtiment éternel et un rendez-vous pour la vie éternelle. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que tu entends l'appel de Dieu. Ne ferme pas ton cœur, car demain ne t'appartient pas. Car tu ne sais pas. C'est dans l'angoisse de la mort que Dieu s'est révélé à moi. J'étais jeune, j'étais angoissé par la mort, je ne sais pas trop pourquoi. Mais la mort, j'avais une hantise de la mort. Je craignais ce que c'était que la mort. J'avais une vingtaine d'années à l'époque. Et puis, j'avais un petit Nouveau Testament Gédéon blanc. Pourtant, j'étais baptisé, confirmé, tout ça. Bref, mais j'avais peur de la mort. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Et ce petit Nouveau Testament ne me quittait pas, mais je ne le lisais pas non plus. Mais c'était comme un gris-gris que j'avais, quoi. Pour me rassurer qu'il y avait quelque chose. Et puis, cette année-là, il y a eu ce tragique accident que je vous raconte tout le temps, mais quand je parle de la mort, je peux pas faire l'économie de cette expérience. J'ai failli mourir. C'est un accident d'autocar. C'était un car à peu près de soixantaine de places. Et le car a fait cet accident. Il y a eu 5 morts sur le champ. Sur le champ, il y a eu 5 morts. Et moi, quand le car tombait, j'étais, waouh. J'ai compris que entre le choc et le réveil, peu importe où tu te réveilles, en fait, il y a un laps de temps où tu ne te souviens de rien. Entre le moment où j'ai vu le car tomber, le moment où je me suis réveillé, je sais plus si c'est des tiers, j'en sais rien, mais il y a eu un blanc total. Et quand je me suis réveillé, enfin, quand je suis revenu à moi, j'étais dans le car, couché, ça criait de partout. J'ai encore des cicatrices de cet accident. Les uns iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Et ça a pris un sens autre pour moi. Tu as failli mourir. Où est-ce que tu étais en train d'aller, Serge? Si tu mourais ce jour-là, où tu serais parti? Honnêtement, à ce moment-là, maintenant avec du recul, je sais que je ne serais pas auprès de Dieu parce que ma vie n'était pas selon Dieu. Donc Dieu m'a donné une autre cartouche. Il m'a donné une chance nouvelle, une grâce. Et ce n'est pas le lendemain de cet accident que je me suis converti, c'est plusieurs mois après. Mais ça a pris un petit temps. Où dans ma tête, je n'étais pas bien du tout. Et puis Dieu a choisi le bon moment, il s'est ouvert. Bien aimé, on ne sait jamais ce qui nous attend. On ne va pas vivre avec la peur de ce qui nous attend, ce n'est pas ça. Mais notre vie, elle est fragile. Alors, si nous devons prier, vas-y s'il te plaît. Si nous devons prier pour les morts, alors prions pour les morts vivants. C'est-à-dire pour ceux qui sont encore en vie, mais qui, parce qu'ils ne connaissent pas Christ, demeurent encore dans la mort spirituelle. Et qui, malheureusement, attendent inexorablement la mort éternelle. Nous ne voulons pas ça pour ceux que nous aimons. Non, nous ne voulons pas ça pour ceux que nous aimons. Nous voulons plutôt qu'ils aient la vie éternelle, bien-aimés. Ne prions pas pour les morts corporels, c'est-à-dire pour ceux qui ont déjà quitté le monde des vivants, car cela ne sert à rien. Ils sont déjà partis. Une fois mort, rien ni personne ne peut plus rien faire pour le mort. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit, et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même aussi, le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Car comme il est donné aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, car tu ne sais pas. Si nous nous souvenons de ceux qui sont partis, c'est normal. Ils font partie parfois de nos familles, de nos amitiés. On a des souvenirs de ces gens-là. J'ai des souvenirs de mon beau-père. Il a mis au monde ma femme, je ne peux pas l'oublier. On n'oublie pas ceux qui sont partis. Mais prier pour eux, c'est une étude. ils sont déjà partis. Et c'est pendant qu'ils sont vivants que nous devons prier pour eux. C'est pendant qu'ils sont là avec nous que nous devons les aimer. C'est pendant qu'ils sont là que nous devons faire tout ce qui est de notre pouvoir pour qu'ils rencontrent Jésus-Christ, bien-aimé. Je souhaite maintenant vous parler de l'espérance et je terminerai sur cette espérance, le paradis. Car c'est de cela qu'il s'agit. En ce week-end de Toussaint, si nous devons nous souvenir de quelque chose, c'est de l'espérance chrétienne qui est attachée à la mort, bien-aimé. Je lirai pas le texte, je vous l'affiche. Vous le lirez à la maison. Je le commenterai. Luc chapitre 16. C'est un texte qui me parle profondément. Jésus, comme à son habitude, enseigne avec des images, avec des paraboles, avec des histoires. Et là, il en prend une pour dire la vérité sur la vie après la mort. Le riche et le pauvre, Lazare. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Moi, ce contraste me fait toujours un peu quelque chose. Hein, c'est Jésus qui met ça en scène. Hein. C'est pas sa qualité de pauvre qui fait qu'il va au ciel. Souvenez-vous, mettez ça en lien avec les béatitudes. Jésus dit, heureux les pauvres en esprit. Ok? Donc c'est parce que, même s'il y a cet aspect matériel, c'est parce qu'il dépend de Dieu, ce monsieur, ce Lazare. Il est dépendant de Dieu, même dans sa misère. Dans sa misère, il aurait pu accuser Dieu. Tu m'avais pas. Jésus ne donne pas tous les détails, mais on sait quand Jésus prend une image, il la rattache toujours à un enseignement qu'il a donné. Le pauvre mourut, les anges l'emportèrent. Waouh, bien aimé, les anges l'emportèrent. Les anges l'emportèrent. Alléluia. Les anges l'emportèrent. Les anges l'emportèrent. Les anges l'emportèrent. Le riche mourut, on l'enterra. Et le texte dit que dans le séjour des morts, où ce riche, finalement, à cause de sa condition, à cause de sa non-relation avec Dieu, s'est trouvé, il vit les tourments qui sont liés à la mort éternelle. Il souffre atrocement. Et il cherche à être délivré de cette atrocité. Et il en fait appel à Abraham. Parce qu'il voit Abraham, et il voit qui à côté d'Abraham? Il voit Lazare. Jésus a des façons de mettre des choses en scène pour nous parler. Et je trouve que la scène est vraiment parlante parce que même là encore, dans la mort, le riche se donne dans la souffrance. Il demande à Abraham de demander à Lazare. Il dit, est-ce que tu peux commissionner Lazare pour qu'il trempe son doigt dans un peu d'eau, ne serait-ce qu'une goutte d'eau, ça peut vraiment me faire du bien. Et Abraham lui dit, même si je le voulais, je ne le peux pas. Parce qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi? Vous savez, il y a un célèbre homme de Dieu qui a dit, tant qu'on est vivant, on peut changer d'adresse. Tant qu'on est vivant et que les moyens nous sont là, ou que les carrières, ou que la vie, on change d'adresse, parce que parfois on est appelé à bouger. Mais il dit, dans l'éternité, il n'y a qu'une seule adresse. Et là, on ne change pas d'adresse. L'adresse avec laquelle tu es rentré après la mort dans l'éternité, c'est celle-là que tu as pour l'éternité. Et c'est ce qu'Abraham a dit au riche. Il dit, tu as pris la mauvaise adresse, mais tu ne pourras plus jamais la changer. Et je ne peux pas faire grand-chose pour toi, même si je le voulais. Parce que entre l'espace où moi je suis avec Lazare et l'espace où tu es, il y a un abîme si profond que personne ne peut. C'est encore une image, mais il est en train de dire que c'est définitif. C'est définitif. Pour Lazare, le paradis est définitif. Il est définitivement rentré dans l'excellence du paradis de son Dieu. Alléluia. Dans l'excellence du paradis de son Dieu. Là où il n'y a ni souffrance, ni grincement de dents, ni pleurs. Là où il n'y a que félicité. Là où il n'y a que paix. L'œuvre de Jésus à la croix donne une autre ouverture, une ouverture nouvelle. C'est la nouvelle alliance en son sang qui fait que Jésus ne parle plus en termes du sein d'Abraham, mais il parle du paradis. N'est-ce pas? Paradis, ce thème, c'est le synonyme du jardin d'Éden. Au commencement, hein, paradis, c'est ce que ça veut dire. Ésaïe 51, verset 3, dans ce poème, il met cela en parallèle. Oui, l'Éternel va consoler Sion de ses ruines. Il aura compassion. Il rendra son désert semblable au paradis. Les steppes deviendra comme un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse y régneront et l'on entendra de la musique et des chants de reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Dans un épisode tragique, devant la mort, dans les tiers de seconde qui vont survenir, un homme fait confession de foi. Il s'appelle le brigand à la croix. Il dit, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et Jésus dit, t'es. Je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Luc chapitre 23, verset 43. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Honnêtement, ce gars, c'est un brigand. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui mérite. Et il a dit lui-même, il dit, je mérite ce sort, car j'ai été mauvais sur toute la ligne. Mais dans les dernières tiers de seconde de sa vie, il a saisi la seule bonne opportunité qui lui a été offerte. Et il a gagné le gros lot. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. L'apôtre Paul lui-même a fait cette expérience-là, spirituellement. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, il dit, je connais un homme, mais il parle de lui. Hein, c'est l'apôtre Paul. Il dit, je connais un homme, je ne sais pas. Dieu le sait. Un tel homme fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Et je sais qu'un tel homme, est-ce dans son corps? Est-ce pas dans son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Fut enlevé au paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'énoncer. Il a fait cette expérience. Dieu lui a fait voir. Il a touché. Apocalypse chapitre 2, verset 7 dit que celui qui a des oreilles écoute et que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Le paradis de Dieu. L'espérance de la foi chrétienne, c'est le paradis. Vas-y. Notre espérance. Espérance veut dire avoir confiance, chercher refuge, attendre quelque chose, espérer. Patience. Attendre. Dans l'Ancien Testament, cette espérance s'est manifestée pour le peuple d'Israël. Dieu leur a promis de les mettre au large. Il l'a fait en les emmenant sur cette terre où coule le lait et le miel. Il a promis la prospérité, la sécurité. Il les a gardés dans les guerres de civilisation. Il a été là à leur côté. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, l'espérance est fondée sur Jésus, le Messie, Jésus le Christ. C'est des biens spirituels qui nous attendent. Beaucoup de ces biens sont invisibles et sont futurs. Ce que l'on voit, l'apôtre Paul dit, ce que l'on voit, est-ce qu'on peut encore l'espérer? Non, puisque c'est déjà là. Mais ce qu'on espère, c'est ce qu'on ne voit pas encore, les promesses à venir. Romains 8, 24. Jésus reviendra, selon le texte, dans sa seconde venue, sa révélation, son avènement, et qui auront pour corollaire la résurrection des morts, la transformation des croyants, la révélation des fils de Dieu, la rédemption de notre corps, la vie éternelle dans les présents du Christ, les biens à venir, la gloire, la victoire finale, le jugement dernier, les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia. Le croyant de la nouvelle alliance trouve un gage de réalisation dans cette espérance de Christ. Jésus le dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Il dit, même pour aujourd'hui, espérez en Dieu, ça vaut la peine, car lui sait de quoi vous avez besoin chaque jour. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront accordées. Car chaque jour suffit sa peine. Dieu est le Dieu qui prend soin de ceux qui lui font confiance. Car l'Éternel ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. les cieux, les nouveaux cieux, les cieux spirituels, bien au-delà, et dans un tout autre monde que les nuages, que les étoiles, se trouve le séjour de Dieu bienheureux et de ses anges. Nous ne savons pas où. Mais la Bible dit que ça existe, ce lieu ineffable. Paul dit, dans le texte que je vous lis dans 2 Corinthiens, il dit au troisième ciel, ou le paradis. Là se manifeste directement la présence du Seigneur. Les anges y sont, et les anges ont leur demeure, selon plusieurs textes, Matthieu 24, Marc 13, Luc 22. Bien-aimés, ça veut dire que tous ceux qui dorment en Christ sont bien là où ils sont, bien-aimés. Tous ceux qui dorment en Christ sont bien là où ils sont. Il y a soit notre espérance, elle est vraie, soit elle est fausse. Mais si elle est vraie, on ne doit plus être en peine pour ceux qui sont partis en Christ. Parce que eux, ils sont en paix. Ils sont rentrés dans la félicité de leur Dieu. C'est vrai, hein? Ils sont rentrés dans la félicité de leur Dieu. Ils sont en paix. Plus de maladies, plus de souffrances, plus de peur. Ils sont rentrés dans la félicité de Dieu. Oui, on est en peine parce que voilà, on les voit plus, ils sont plus là avec nous. On aurait voulu continuer d'interagir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous savez, une aînée de 83 ans m'a dit une fois, et le Seigneur l'a rappelé depuis, Serge, je suis fatigué. J'attends que le Seigneur me rappelle. Parce qu'elle avait des pathologies et tout ça. Mais c'est pas l'expérience de tous les seigneurs. Chacun a son expérience. Il y a des seigneurs qui ont encore la vie. Et qui veulent continuer de profiter. Comme Job, la Bible dit qu'il était rassasié de jour. Il était rassasié de jour. Et c'est Dieu qui nous les donne. Qu'il te donne 40 ans, 47 ans, qu'il te donne 50 ans, qu'il te donne 52 ans, qu'il te donne 25 ans, qu'il te donne 120 ans, c'est lui qui te les donne. Prends ce qu'il te donne. Et vis chaque jour. Pas comme l'artiste l'a dit. L'artiste dit, vis chaque jour comme si c'était le dernier. Non, vis chaque jour comme si c'était le premier de ton éternité. Vis chaque jour comme si c'était le premier de ton éternité. Vis chaque jour comme si c'était le premier de ton éternité. Chaque jour. Jésus est le gage que ce ciel existe. La Bible dit qu'il est descendu de là-bas. Il dit, je vous parle des réalités que vous ne connaissez pas parce que moi j'y viens. Mais quand je vous parle, vous n'entendez pas parce que vous n'y êtes jamais allé. Mais je vous dis ce que je sais. Et ce que je connais, je vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je viendrai vous chercher. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. Bien-aimé, terminons cette méditation de ce matin. Jean chapitre 14. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Car je suis le chemin, la vérité. Et la vie, nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Ah, bien-aimé. Si nous pouvons dire à certains égards que finalement la Toussaint est la fête de tous les saints, de tous ceux qui sont admis à partager le bonheur de Dieu en Christ, il nous faut affirmer que ces saints dont nous parlons ne sont pas uniquement de grands hommes. Vous savez que dans certaines religions, on n'appelle pas tout le monde saint, on appelle des gens exceptionnels des saints. Mais c'est pas le cas de la Bible. La Bible appelle 40 fois dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont appelés des saints. Tout homme, toute femme qui a fait la paix avec Dieu est un saint, est une sainte selon Dieu. Parce que c'est Dieu qui la rend juste, qui le rend juste et qui le sanctifie. Il n'y a pas que de grands hommes de foi, mais encore ceux qui auraient ou ceux qu'on aurait canonisés dans certaines religions. Mais tous les croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament en Christ, d'hier, d'aujourd'hui, de demain, font tous partie de ces saints-là. Alors oui, aujourd'hui, comme tous les autres jours ordinaires, c'est notre fête. C'est la fête des saints. C'est la fête de tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, qui espèrent. en ce Dieu et qui espèrent en son paradis lorsqu'ils ne seront plus ici. Alors oui, tous les jours comme aujourd'hui, c'est la fête de l'espérance. Cette espérance, il nous faut la continuer, il nous faut continuer de la vivre, de l'annoncer à tous ceux et à toutes celles qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Dis aux hommes, aux femmes, Dieu vous aime. Nous-mêmes, nous avons été au bénéfice des gens qui nous ont dit Dieu t'aime et qui nous ont introduit dans la foi, bien-aimés. Nous étions aussi comme eux et nous n'avons pas de prétention à être orgueilleux. Non, c'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés, ce n'est pas nos œuvres. Et nous ne pouvons pas faire les fiers non plus, aucunement. C'est la grâce de Dieu qui nous a touchés. Et cette grâce, nous voulons qu'elle soit encore disponible pour des hommes et des femmes, bien-aimés. C'est pour cela que dans l'évangile de Luc, chapitre 13, il dit « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui cherchent à entrer et n'y parviendront pas. » Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes resté dehors, vous aurez beau frapper à la porte. En suppliant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous venez. Et pourtant, verset 29, il dit, des hommes viendront de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi et prendront place à la table dans le royaume de Dieu. Alors, certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Et certains de ceux qui sont maintenant les premiers seront les derniers. La morale de cette histoire, c'est peu importe d'où tu viens, peu importe ton histoire, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si tu as fait la paix avec Dieu, persévère dans cette paix avec Dieu. Garde le Seigneur dans ton cœur. La Bible dit dans Romains chapitre 3, 23, car tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, il n'en a même pas un seul. Nous sommes tous des pécheurs. Par contre, Jean nous dit dans un verset célèbre que nous tous nous connaissons, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais que pour répondre à cette prédication que nous chantons, le chant que nous avons chanté avant la prédication, et que nous puissions être un peuple de l'espérance. La mort, oui, est un fait, mais il y a de l'espérance en Christ. Et nous pouvons chanter cette espérance, écouter notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse en son.
Cœur. Je me prosterne à tes pieds, je me répands. Consume en moi ce qui ne te glorifie pas. Attire-moi bien plus près de toi, plus que ce que j'ai connu.
Attire-moi, Seigneur.
Attire-moi bien plus près de toi, plus que ce que j'ai connu.
Attire-moi, Seigneur.
Attire-moi bien plus près de toi, plus que ce que j'ai connu.
Attire-moi, Seigneur.
Attire-moi bien plus près de toi, plus que ce que j'ai connu. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras.
Prends-moi, Seigneur.
Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras. Prends-moi, Seigneur, dans ce lieu secret. Seul en ta présence, je serai transformé. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras.
Conduis-moi, Seigneur.
Conduis-moi, Seigneur, dans ce lieu secret. Seul en ta présence, je serai transformé. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras,
serre-moi dans tes bras. Conduis-moi, Seigneur.
Conduis-moi, Seigneur, dans ce lieu secret. Seul dans ta présence, je serai transformé. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras.
Conduis-moi, Seigneur.
Conduis-moi, Seigneur, dans ce lieu secret. Seul en ta présence, je serai transformé. Prends-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras.
Merci, Seigneur.
Amen. Merci, mon Dieu.